Le journal de Margot Delpierre. Bonjour Margot.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Arrêtés en possession d'armes en lien avec l'organisation terroriste ETA, deux personnalités de la société civile sont jugées aujourd'hui et demain à Paris. Explication à suivre.
Sept employés de World Central Kitchen qui distribuent des vivres à Gaza ont été tués dans une frappe israélienne, affirme l'ONG américaine. Des étrangers figurent parmi les victimes.
Bassirou Diomaye-Faye prête serment aujourd'hui. Lutte contre la corruption, contre le chômage, autosuffisance alimentaire, les défis sont nombreux pour le nouveau président sénégalais.
La droite française rêve-t-elle d'un nouveau Pompidou 50 ans après la mort de l'ancien président? Ce sera le billet politique de Jean Lemarié dans un quart d'heure.
Et puis des enregistrements inédits de Marvin Gaye auraient été retrouvés en Belgique où le Soulman a vécu, extrait à la fin du journal. Elle, Béatrice Moll-Aran, est journaliste. Lui, Jean-Noël Etcheverry, écologiste. Tous les deux sont jugés à partir d'aujourd'hui à Paris, accusés d'avoir porté, transporté et détenu des armes en relation avec l'organisation terroriste ETA. Les faits se sont produits en décembre 2016 à Louossoa, dans les Pyrénées-Atlantiques. Les prévenus avaient décidé par eux-mêmes d'entamer le désarmement d'ETA, Anne Fauquemberg.
Béatrice Moll-Aran avait loué une partie de sa maison à Jean-Noël Etcheverry en ce mois de décembre 2016. Il y avait déposé 10 grosses caisses d'armes, d'explosifs et de munitions, soit 15% de l'arsenal de TA. Jusqu'à leur interpellation le 16 décembre par le RAID, Béatrice Moll-Aran a toujours affirmé ne pas savoir que des armes étaient cachées chez elle, mais qu'elle se doutait de la préparation d'une action illégale, mais pas illégitime. Quant à Jean-Noël Etcheverry, il souhaitait neutraliser ses armes, les découper par exemple, tout en se faisant filmer, afin de prévenir les autorités françaises de l'importance des stocks dans la nature. En 2016, en effet, cela fait déjà 5 ans que TA a annoncé la fin de sa lutte armée. L'organisation terroriste affirme vouloir se désarmer, mais la France et l'Espagne ne font aucun pas en ce sens, explique Jean-Noël Etcheverry.
Ça voulait dire que des gens pouvaient se dire « rien ne bouge, reprenons les armes » ou pouvaient s'emparer d'une cage d'armes. On était quand même en 2016, l'année après les attentats de Charlie Hebdo et du Bataclan. On se disait « mais c'est irresponsable cette attitude et le risque que prennent les deux États ». On a fait ce qu'on pensait qu'auraient dû faire les deux États français et espagnols. On est rentré en contact avec l'organisation État, on a commencé à discuter avec elle. Et on lui a dit, nous, on est prêts à assumer la responsabilité publique, politique et juridique du démantèlement de votre arsenal. Et c'est ce qu'on a fait.
Au prix de gros risques, puisque la peine maximale encourue est de 10 ans de prison. Au Pays Basque, les prévenus sont aussi appelés les artisans de la paix, car leur action aura réellement permis d'entamer le désarmement de l'organisation terroriste. Ils sont soutenus par de nombreux parlementaires et même d'anciens ministres.
Et ce procès s'inscrit dans l'histoire de l'organisation indépendantiste basque, née en 1959 sous le régime de Franco et tenue pour responsable de la mort de plus de 800 personnes. Un procès à replacer dans le contexte du processus de paix engagé après l'annonce de l'abandon de la lutte armée, Florence Turm.
L'histoire de TA est jalonnée non seulement d'attentats meurtriers, mais aussi de plusieurs négociations de paix avortées avec le gouvernement espagnol. En janvier 2011, l'organisation annonce un cessez-le-feu permanent, puis renonce à l'impôt révolutionnaire, sa principale source de financement. Annonce de trêve jugée insuffisante par Madrid, mais dans le même temps, un nouveau parti politique issu de la gauche nationaliste basque émerge, qui rejette la violence et remporte des succès significatifs dans plusieurs élections en Espagne. Des personnalités internationales, comme l'ancien secrétaire des Nations Unies et prix Nobel de la paix Kofi Annan ou l'avocat sud-africain Brian Kerin, présentent le 17 octobre 2011 une feuille de route pour la résolution du conflit. Des membres de la société civile s'impliquent également. Trois jours plus tard, ETA annonce la fin de la lutte armée. Restent deux questions centrales, celle de la restitution des armes et des explosifs disséminés dans des caches sur le territoire français, considérés comme le sanctuaire de l'organisation. C'est le sujet qui est au cœur du procès. Le rapprochement des prisonniers de leurs familles, l'une des grandes revendications, est désormais acté. Ils ne sont plus qu'une petite dizaine en France, tous en fin de peine, mais qui seront ensuite transférés vers l'Espagne. Les débats autour de leur libération, tout comme celle des 140 détenus des prisons espagnoles, demeurent toutefois un sujet de crispation dans les milieux nationalistes basques.
Florence Turm, autres territoires, autres enjeux. La Nouvelle-Calédonie est à l'ordre du jour des sénateurs. Ils devraient adopter cet après-midi le projet de réforme constitutionnelle prévoyant le dégel du corps électoral dans l'archipel. Dégel préconisé par le Conseil d'État. Il estime que le maintien du régime actuel ne permet plus un fonctionnement démocratique normal. Car aujourd'hui, seules les personnes présentes dans l'archipel avant 98 sont autorisées à voter aux élections locales, ce qui exclut 20% des électeurs calédoniens arrivés après cette date. La réforme prévoit de donner le droit de vote à toute personne pouvant justifier de 10 ans de résidence en Nouvelle-Calédonie. De quoi accentuer les tensions entre les différentes forces politiques sur place, Stéphane Robert.
Cette révision constitutionnelle ferait automatiquement entrer 25 000 personnes dans le corps électoral calédonien, actuellement composé de 180 000 votants. Elle doit en théorie entrer en vigueur le 1er juillet prochain et prévoit également la tenue d'élections provinciales avant la fin de l'année. Mais il faut pour ça qu'après son adoption par le Sénat, qui ne fait a priori aucun doute cet après-midi, l'Assemblée nationale adopte le texte dans les mêmes termes, ce qui ouvrirait la voie à une nouvelle réunion du Congrès à Versailles afin de valider le texte de loi à la majorité des 3/5. En attendant, cette révision constitutionnelle provoque de vives réactions sur place en Nouvelle-Calédonie. Avec d'un côté, les Kanaks indépendantistes qui demandent son retrait. Ils ne contestent pas la nécessité de dégeler le corps électoral, mais pour eux, ça ne peut pas leur être imposé. Comme ça, ça doit être le fruit de discussion et s'inscrire dans le cadre d'un accord politique global sur l'avenir de l'archipel. En face, les non-indépendantistes sont divisés, mais les plus radicaux veulent aller au-delà d'un simple dégel du corps électoral. Ils veulent renégocier la clé de répartition des sièges entre les provinces favorables à la communauté kanak et ils boycottent le Congrès, c'est-à-dire l'Assemblée représentative de la Nouvelle-Calédonie. La situation s'est à ce point tendue ces derniers jours qu'elle a donné lieu à deux manifestations de plusieurs milliers de personnes jeudi dernier. D'un côté, des Kanaks qui considèrent que le gouvernement français a cessé d'être impartial et de l'autre, des loyalistes qui, par la voix de leur chef de file, Sonia Bakès, accusent les Kanaks d'être illégitimes, sectaires et racistes.
15 000 bébés naissent chaque année en France avec des troubles du spectre autistique. Et si la prévalence varie selon les études, il semblerait qu'elle atteigne 2% des naissances, un chiffre en constante augmentation, alors qu'aujourd'hui a lieu la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Il est dû à un dysfonctionnement cérébral qui altère la communication et le comportement. Une étude très récente menée au sein de l'Institut Imagine vient de mettre en image la plasticité cérébrale des enfants autistes et encourage à les diagnostiquer très tôt, Tara Schlegel.
Les enfants autistes ont du mal à regarder les autres dans les yeux. Cette réalité est connue depuis 1943 et quantifiée scientifiquement depuis une vingtaine d'années grâce au eye tracking qui permet de vérifier vers où les yeux des petits autistes regardent. Cette nouvelle étude menée sur 25 enfants autistes et 24 enfants témoins a associé l'outil eye tracking à des images, des IRM du cerveau des enfants en train de regarder des vidéos. En l'occurrence, un film du petit Nicolas. L'objectif était de corréler ce qui se passe dans le cerveau avec le mouvement des yeux. Car certains autistes sont capables, plus que d'autres, de s'approcher avec leur regard du visage des personnages. La psychologue Anna Saitovic, chercheuse en neurosciences à l'Institut Imagine et affiliée à l'INSERM et à l'hôpital Necker.
Ça veut dire que les enfants avec autisme, qui vont regarder plus les yeux, ce qui présuppose des capacités sociales un peu plus développées, vont avoir des fibres au niveau d'une région cérébrale supplémentaire, comme s'il y avait un réseau supplémentaire qui a dû se mettre en place, se développer, pour sous-tendre le développement de ses meilleures capacités sociales.
C'est donc la preuve, par l'image de la plasticité cérébrale du cerveau des enfants autistes, dont on faisait l'hypothèse sans l'avoir montré encore, se réjouit Anna Saitovic.
Et ça, c'est très important, parce que ça renforce le besoin d'une intervention précoce, donc diagnostic et intervention précoce, pour pouvoir profiter, je mets entre guillemets, de ces mécanismes, parce qu'on sait que la plasticité cérébrale, elle a lieu tout au long de la vie, mais qu'elle est beaucoup plus importante chez l'enfant.
Or, en moyenne, en France, l'autisme est découvert vers l'âge de 5 ans.
Tara Schlegel, l'autisme, un nom pour combien de maladies? C'était la question du jour ce matin, à retrouver en podcast et sur le site internet de France Culture. Nouvelle journée de grève chez les enseignants. Aujourd'hui, le second degré essentiellement devrait être concerné. Plusieurs syndicats, dont le SNES-FSU, majoritaire dans les collèges et lycées, appellent à se mobiliser contre les groupes de niveau voulus par le gouvernement et pour plus de moyens en faveur de l'école publique.
8h09 sur France Culture, la suite du journal de Margot Delpierre. À Gaza, pour la première fois depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, des humanitaires étrangers ont été tués hier.
World Central Kitchen affirme que 7 de ses employés ont été tués dans une frappe israélienne, selon son fondateur. L'ONG américaine qui distribue des vivres dans l'enclave palestinienne suspend ses activités dans la région. Bonjour Thibault Lefebvre.
Bonjour, bonjour à tous.
Correspondant à Jérusalem, s'agit-il d'une bavure de l'armée israélienne? Que s'est-il passé, Thibault?
Oui, pour le patron de l'ONG World Central Kitchen, la responsabilité de l'aviation israélienne ne fait aucun doute. José Andrés dit avoir le cœur brisé et il affirme donc, sans attendre la confirmation de l'armée, que 7 de ses employés ont été victimes d'une frappe. Ils circulaient dans un convoi composé de 2 voitures blindées et d'un 3e véhicule dans une zone relativement calme autour de la ville de Deir al-Balah, c'est au centre de la bande de Gaza. Ils venaient de quitter un entrepôt où était stockée de la nourriture. L'armée israélienne dit avoir ouvert une enquête et elle devrait, comme elle en a l'habitude dans ce type de circonstances, communiquer assez rapidement. La Maison-Blanche, par la voix de la porte-parole du Conseil de sécurité nationale, reprend les mots du patron de World Central Kitchen et dit avoir le cœur brisé et être profondément troublé par la frappe. Le Premier ministre australien Anthony Albanese est le seul dirigeant concerné à avoir confirmé l'identité d'une de ses concitoyennes et il demande à ce que les responsables de sa mort rendent des comptes. Pas de réaction pour le moment des autres chancellerie concernée ni du côté du Quai d'Orsay. Et c'est donc la première fois que des travailleurs humanitaires étrangers meurent à Gaza depuis le début de la guerre, alors que plus de 150 employés palestiniens des Nations Unies ont été tués dans l'enclave. Ce drame touche une des ONG les plus importantes à Gaza. World Central Kitchen distribue des repas depuis des mois dans une 60aine de cuisines d'urgence installées dans l'enclave. Ce matin, ses dirigeants annoncent suspendre leurs opérations, laissant, selon l'ONU, plus d'un million de Gazaouis en proie à la famine.
Thibault Lefebvre, et presque 6 mois après le début de la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza, les tensions sont aussi régionales. Un raid imputé à Israël a visé hier la section consulaire de l'ambassade iranienne à Damas, en Syrie. Le bilan est de 11 morts, dont 7 gardiens de la révolution d'Iran. Bassirou Diomaye-Faye va prêter serment aujourd'hui, juste avant une passation de pouvoir avec Macky Sall. À 44 ans, le dirigeant, élu fin mars, devient le plus jeune président du Sénégal. Une ascension éclair et des défis nombreux car les Sénégalais ont placé beaucoup d'espoir en lui. À Dakar, Théa Olivier.
Les attentes sont à la hauteur des promesses ambitieuses. Dans son programme, Bassirou Diomaye-Faye a déjà évoqué plusieurs chantiers prioritaires. D'abord, la baisse du coût de la vie alors que les prix des biens de première nécessité flambent dans le pays. Ensuite, il a promis la création d'emplois pour les jeunes dans un pays avec un taux de chômage de 20% où 3 personnes sur 4 ont moins de 35 ans et avec de plus en plus de jeunes qui prennent le chemin de l'émigration clandestine vers l'Europe. Lutte contre la corruption, autosuffisance alimentaire, Bassirou Diomaye-Faye a aussi insisté sur sa volonté de rétablir la souveraineté bradée à l'étranger selon lui, ce qui pourrait passer par une réforme du franc CFA. Tout en réassurant les bailleurs sur les intentions du Sénégal de rester un allié sûr et fiable, il a déjà parlé de vouloir renégocier les accords de pêche ainsi que les contrats pétroliers et gaziers alors que le pays s'apprête à devenir cette année un producteur d'hydrocarbures. Mais le nouveau président va devoir faire face à un défi majeur, celui de composer avec une assemblée nationale où il n'a pas la majorité, à suivre s'il sera obligé de la dissoudre afin de pouvoir gouverner et mettre en œuvre les réformes promises.
Théa Olivier. 40 ans après la mort de Marvin Gaye, abattu par son père, des inédits du chanteur américain auraient fait surface en Belgique, où il a résidé en 1981. Marvin Gaye a marqué la musique soul et laissé derrière lui 25 albums studio, dont le célèbre What's Going On, classé par le magazine Rolling Stone au premier rang des 500 plus grands albums de tous les temps. On croyait tout connaître de son œuvre, et pourtant, Pierre Benazé.
Ce qu'on entend là, c'est Marvin Gaye en train d'enregistrer une chanson en Belgique. Depuis 1981, personne n'avait entendu cette mélodie. Cette année-là, le prince de la soul a vécu 6 mois à Ostende. C'est d'ailleurs en Belgique qu'il a enregistré un de ses titres les plus connus, Sexual Healing. Mais apparemment, Marvin Gaye avait fait bien d'autres essais de composition musicale. Can't Est-ce que ça enregistre ? Demande Marvin Gaye. Heureusement, parce que sinon, je ne m'en souviendrai jamais. En quittant la Belgique, il aurait dit à ses hôtes : je vous laisse tout ça, faites-en ce que vous voulez. Tout ça, ce sont divers costumes de scène, quelques carnets de notes et des dizaines de cassettes audio. 38 contiennent des enregistrements avec sa voix. Et les heureux détenteurs de ces cassettes aimeraient maintenant que ces mélodies puissent devenir de nouveaux titres de Marvin Gaye. Mais un casse-tête juridique va se poser. Selon la loi belge, au bout de 30 ans, celui qui détient un objet en devient propriétaire. Cette loi ne vaut pas pour la propriété intellectuelle. Pour espérer entendre un jour un peu plus que ces quelques secondes d'enregistrement, il faudra que ceux qui les détiennent trouvent un accord avec les héritiers de Marvin Gaye.
Pierre Benazet, deux départements sont en vigilance rouge pour crues, Lyon et la Saône-et-Loire. 8 autres de l'Est comme de l'Ouest sont en orange pour crues également. Météo France prévoit des averses et du vent dans une moitié nord. Le soleil persiste dans le Sud-Est. 12 degrés attendus cet après-midi à Rennes et Metz, 14 à Paris et La Rochelle, 18 degrés à Toulouse et Nice.